Bonjour, ici Yama. Vous êtes journaliste indépendant et vous écrivez pour les plus grands journaux nationaux comme Science et Vie, Reporter et Mediapart. Mais pourtant, vous travaillez depuis votre maison située sur le plateau du Vercors. Ce parcours un peu atypique nous mène à nous poser une multitude de questions. Commençons les questions. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu en quelques mots?
Bonjour, merci de me recevoir. Oui, moi je suis un ancien prof de SVT et je suis devenu journaliste spécialisé en sciences et en environnement depuis longtemps maintenant, parce que j'ai 25 ans de carte de presse. Et comme vous l'avez dit, je travaille pour différents supports, mais toujours écrit, des mensuels, des quotidiens, toutes sortes de journaux et magazines.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser sur ces questions scientifiques et environnementales?
Ben, je crois qu'en fait, derrière, il y a vraiment un intérêt très fort pour la nature, en fait. Au début, je pensais que la science, c'était surtout parce que, enfin voilà, ça explique plein de choses, c'est beau, c'est logique, c'est puissant. Mais en vrai, ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre le monde qui m'entoure. Et le monde qui m'entoure, aussi bien vivant que juste physique, pourquoi l'eau, elle se comporte comme ça, pourquoi la terre se comporte comme ça, pourquoi les animaux et les plantes font ce qu'ils font. Et je crois que la science, c'était une façon en fait d'aller plus loin dans mon rapport à la nature.
Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer à informer sur les enjeux du changement climatique?
Ben, le changement climatique, comme d'autres problèmes d'environnement, vont vraiment marquer les années à venir. En fait, c'est juste s'intéresser à ce qu'est notre avenir et ce qu'on va devenir et ce qu'on va faire avec nos enfants pour s'adapter au monde de demain. Donc, je trouve que c'est un sujet passionnant. Je trouve que la société le nie beaucoup, ne nous y prépare pas suffisamment. Ne nous explique pas suffisamment qu'il faudra le gérer et comment il faudra le gérer. Donc moi j'essaye de faire ce travail-là.
Avez-vous mené une enquête dont vous êtes particulièrement fier?
Oui, ça m'est arrivé. En tout cas, je suis plus content de certaines enquêtes que d'autres. J'avais fait une enquête pour Le Monde une fois. Déjà, j'étais fier parce que c'était paru dans Le Monde et pour un journaliste. Enfin voilà, quand j'ai commencé jeune journaliste. Sortir une enquête dans Le Monde, c'était un peu pour moi le Graal. Et en fait, je vous raconte en deux mots, j'ai une nièce qui était mariée à quelqu'un qui travaillait sur les chantiers au bord des routes. Et ce jeune homme, qui avait peut-être 25 ou 30 ans, a attrapé un cancer. Et quand il est allé voir son médecin généraliste, il lui a dit, bon, ben, les routes, c'est fini pour toi. Et en fait, j'ai compris que ce médecin lui disait que de travailler avec le goudron, en fait, parce que le problème c'était le goudron, c'était extrêmement dangereux pour la santé et cette personne ne le savait pas. Et du coup, j'ai commencé à enquêter sur les effets du goudron sur la santé et je veux dire le travail du goudron. Les gens qui le tirent sur les bords des routes, vous savez, cette odeur horrible du goudron chaud. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet parce que c'est quelque chose qui donne le cancer et il y avait des études qui commençaient à le montrer. Il y avait des procès en cours de gens. Bref, donc je me suis engagé dans cette enquête-là et on a trouvé qu'effectivement, il y avait un vrai risque pour la santé et il y avait des vraies choses profondément graves et incorrectes qui se passaient dans l'industrie. Et donc, j'ai réussi à publier ça dans Le Monde et. J'ai l'espoir que par la suite, quand ces gens ont fait des procès à leurs employeurs et dans la suite de leur parcours, ça a peut-être pu les aider à obtenir réparation.
Comment travaillez-vous pour rendre des sujets scientifiques et environnementaux accessibles au grand public?
Alors, en journalisme, on a une expression, c'est qu'il faut écrire pour sa grand-mère. Moi, quand j'écris, j'essaye de pas écrire pour mon chef ou pour les autres journalistes. J'essaie d'écrire d'une manière qui soit compréhensible pour les gens que je vise. Et en fait, on ne vise pas exactement les mêmes personnes si on écrit dans le Dauphiné, si on écrit dans le Monde, si on écrit dans Science et Vie. Donc à chaque fois, j'essaie de me représenter, mais presque physiquement, la personne qui va me lire. Et j'écris comme si je lui parlais. Et je me pose tout le temps la question de est-ce que cette phrase-là est compréhensible? Est-ce que ce mot-là, ça va aller? Et voilà, j'essaye de faire cet effort-là. Des fois, bon, ben, mécaniquement, on écrit et puis on oublie un peu de se surveiller, mais c'est ça la démarche.
Quel lien entretenez-vous avec le Vercors ?
Bon, c'est drôle parce que voilà, moi j'ai un profil plutôt scientifique et normalement la science c'est quelque chose de neutre et un peu dépassionné, mais moi je suis assez fasciné par le Vercors et admiratif presque, j'allais dire mystiquement, mais c'est trop fort, mais il y a quelque chose de vraiment majestueux, moi, qui m'impressionne dans le Vercors, en fait. Et quand j'y suis, quand je m'y promène, voilà, par exemple, je suis très impressionné par l'épaisseur du silence qu'on a dans certains endroits. Et puisqu'on est à la radio, je vous en parle d'autant plus volontiers. Je trouve qu'il y a une majesté des paysages visuels. Mais il y a aussi des paysages sonores, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a des moments où on entend le vent, on entend les arbres qui bougent, on entend des insectes, des oiseaux qui passent. Et en fait, si on fait le silence autour de soi, qu'on s'immobilise, qu'on s'immerge là-dedans, on a des sensations vraiment fortes, quoi. Enfin, moi, en tout cas. Donc, bon, moi, le Vercors, j'essaie de le comprendre. J'essaie de comprendre les gens qui y travaillent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, etc. Mais voilà, ça me fait un effet particulier, plus que ce que la raison supposerait, en fait.
En quoi le Vercors est-il un territoire intéressant pour traiter des sujets environnementaux ?
C'est vraiment... c'est un territoire passionnant. C'est presque, j'avais envie de dire, presque le meilleur, mais il y a quand même une diversité ailleurs aussi. Mais ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est qu'il y a la réserve des Hauts Plateaux qui est une espèce de cœur de nature, extrêmement préservé. C'est un très grand espace sans habitation humaine permanente. Il y a toutes les grandes espèces d'ongulés français qui sont là, enfin donc tous les gros mammifères herbivores, chamois, cerfs, chevreuils, sangliers, etc. Il y a des loups, il y a des chaînes alimentaires qui sont vraiment préservées et en bon état. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant avec ce massif, c'est qu'il est habité. Il est même très habité, et depuis longtemps. Et donc, il y a tout un tas de gens qui se croisent là-dedans. Il y a des chasseurs, il y a des randonneurs, il y a des naturalistes, il y a des bûcherons, il y a des agriculteurs. Et en fait, pour les questions que je me pose, moi, sur l'écologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver des façons de cohabiter avec la nature sans la détruire, eh ben, les humains sont très importants. Moi, ça m'intéresse de réfléchir sur la nature quand elle est toute seule, mais ça m'intéresse surtout de réfléchir à comment les humains et la nature peuvent interagir. Et en se faisant du bien les uns aux autres, entre guillemets. Et pour ça, le Vercors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a donc tous ces groupes de populations qui coexistent, qui parfois s'aiment pas entre eux, mais qui néanmoins coexistent et puis qui doivent se partager un territoire auquel ils sont tous attachés. Parce que vous pouvez prendre les écologistes les plus radicaux et les chasseurs les plus passionnés, ils vont tous vous dire qu'ils aiment le Vercors, et les agriculteurs aussi, et les gens qui arrivent de la ville aussi. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble avec nos différences sur ce terrain et sans l'abîmer et en le gardant pour nos enfants. Donc, moi, ça, c'est des sujets qui me passionnent et que le Vercors est vraiment utile pour traiter.
Quelle est la fake news concernant le climat qui vous a le plus choqué ?
C'est la fake news de base qui est qu'il ne se réchaufferait pas. Alors, on l'entend de moins en moins, mais moi, j'ai quand même entendu ça tout le temps. En fait, soit on nous dit qu'il se réchauffe pas, soit on nous dit qu'il se réchauffe, mais c'est pas la faute des humains ou des activités humaines. Et moi, j'ai fait ma première une de Science et Vie sur le climat en 2003. Donc en 2003, je me souviens, on avait pris 50 pages de Science et Vie pour expliquer le réchauffement climatique. Aucun d'entre vous n'était né, mais nous, on avait déjà toutes les données. Et voilà, et que aussi longtemps après, il y a encore des gens avec tout ce qu'on voit qui refusent d'y croire. Il y a plein d'explications à ça, mais ça m'exaspère quand même. Et ça me donne envie de parler encore plus fort pour qu'ils entendent.
Et du coup, comment vérifiez-vous vos informations, surtout dans un contexte de désinformation climatique ?
Bah, c'est un métier. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis payé pour trouver des informations justes et pour ne pas me tromper. J'insiste un petit peu là-dessus parce que souvent, les gens se disent « bon, bah, y a des choses qui sont écrites dans les journaux, puis il y a des choses qui sont écrites ailleurs, sur le net ou dans des livres. Et puis tout ça, ça a un peu la même valeur. Il faut tout lire et choisir ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas. » Mais prenez la mesure que quand on est journaliste, en fait, on est dans une entreprise dont le but est de ne pas se tromper. Alors, bien sûr, il y a des journaux d'opinion, il y a des journaux qui font en fait, qui ont la forme de journaux, mais qui ne font pas vraiment du journalisme. Mais en tout cas, sachez que dans une rédaction, nous, quand on se trompe, c'est la honte, en fait. Moi, quand j'écris, je vérifie parce que j'ai peur de l'erreur. Et si je me trompe, va y avoir des gens qui vont écrire, qui vont dire « Non, mais là, page 3, Siama, c'est pas du tout le bon chiffre, il s'est trompé de 2-0, etc. » Et mon chef va me faire venir dans son bureau et il va me dire « J'ai reçu 3 lettres qui prétendent que tu t'es trompé là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut qu'on s'excuse ?» Et c'est très désagréable tout ça. Et puis après, les collègues, ils le savent. Si vous avez un journaliste qui bâcle un peu, qui écrit un peu vite, qui vérifie pas et qui fait des erreurs, ça se sait très vite. C'est comme dans toutes les professions, les erreurs circulent. Et donc, nous, on a un truc réputationnel. C'est pas juste pour avoir de la promotion ou quoi. C'est parce que quand on est dans un métier, en plus un métier un peu passion, comme ça, on a envie d'être bon et que les autres vous ressentent comme étant bon. C'est-à-dire, genre, bon, bah, si Siama a écrit ça, bah, c'est que c'est vrai, il n'y a pas à vérifier. Enfin, c'est ça qu'on voudrait dégager. Et donc, comprenez qu'un journaliste, il peut avoir ses opinions, mais il ne peut pas facilement écrire de choses fausses. Donc, voilà, moi, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important dans mon métier et que j'essaye d'expliquer parce que ce n'est pas toujours visible de l'extérieur.
Et pouvez-vous expliquer ce qu'est un journaliste freelance ?
Oui, alors souvent on se fait appeler journaliste indépendant parce que on trouve ça plus classe, mais le vrai terme c'est freelance en anglais et pigiste en français. Et ça veut juste dire qu'on n'est pas rattaché à un journal en particulier, mais qu'on fait des enquêtes qu'on nous commande. Et après, on est payé bon, à la journée ou à la page. Voilà, on trouve des astuces. J'insiste sur le fait que le mot indépendant n'est pas très juste parce que ça sous-entend que ceux qui seraient dans une rédaction, ils seraient dépendants. Et dépendants de qui? Dépendants de quoi? Enfin, on n'est pas plus libre ni moins libre que les journalistes en rédaction. On est un peu libre et pas complètement. D'ailleurs, il faut aussi comprendre ça, qu'un journaliste n'écrit pas tout ce qu'il veut. Il a un chef de rubrique, il a un rédacteur en chef, il est salarié. Donc, on choisit pas forcément toujours les sujets qu'on traite. Des fois, on va nous dire, voilà, nos lecteurs, ils ont vraiment envie qu'on leur parle de ça. Donc, même si on trouve que ça, c'est pas très intéressant, ben, des fois, il faut y aller. Et à l'inverse, des fois, nous, on a super envie de parler de quelque chose. Et puis, en fait, ça n'intéresse pas nos chefs ou on n'arrive pas à les convaincre. Et du coup, on n'en parle pas.
Comment définiriez-vous le climato-scepticisme aujourd'hui et comment et avec quels médias est-il propagé ?
Alors, le climato-scepticisme, c'est un vaste univers avec des gens différents qui ont des idées différentes. Donc il y en a de plein de formes, mais à un moment avec des amis on se disait que c'est déjà pas le bon terme parce que climato-scepticisme, il y a quelque chose de bien dans le fait d'être sceptique, c'est-à-dire que être sceptique, quelque part c'est un peu classe, c'est voilà, moi je me laisse pas avoir, je suis sceptique, je demande à voir et à réfléchir. Et en fait, les climato-sceptiques, c'est pas ça du tout. C'est le contraire. C'est des climato-croyants. C'est-à-dire qu'on leur donne plein d'arguments et eux, ils disent non, non, mais ok, vous avez des arguments, mais moi, je crois que le climat ne se réchauffe pas ou que c'est pas l'homme ou je sais pas quoi. Donc, on se disait faut peut-être les appeler les climato-négationnistes ou les climato-négateurs, mais aucun de ces mots ne sonne bien. Souvent, quand il y a un mot qui s'impose, le fait que ce mot-là soit imposé, c'est un peu une défaite pour nous. Ils ont réussi à se donner un nom qui est plus classe que les idées qu'ils expriment, à mon avis. Mais voilà, après, où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve beaucoup sur le net, dans différents sites climato-sceptiques. Et puis on les trouve au bistrot, dans la rue, un peu partout. Et il y a quelques médias, en particulier les médias du groupe Bolloré, notamment CNews, Europe 1, etc., qui maintenant commencent à leur donner la parole plus que ce qu'il faudrait ou que ce qu'ils méritent.
Pourquoi, selon vous, certaines personnes remettent-elles encore en cause les changements climatiques, mettent-elles en doute les paroles des scientifiques ?
Parce que, il y a probablement plusieurs raisons, mais je pense que la raison principale, c'est que si on accepte que le climat se réchauffe, il faut modifier nos modes de vie, et probablement assez profondément. Il faut changer notre rapport à la voiture, au voyage, à beaucoup de choses. Il faut commencer à inventer des vies plus sobres. Et il y a des gens, et particulièrement chez les gens les plus âgés, qui n'ont pas envie de changer. Et ils n'ont pas envie qu'on leur dise ça. Ils n'ont pas non plus envie qu'on leur dise que la façon dont ils ont vécu a fait du mal. Et donc, ils sont dans le déni. Et je partage ça avec vous, mais j'ai des amis proches. Et dans leur famille, il y a eu une histoire d'inceste qui s'est passée. Et l'épouse de l'incesteur n'a jamais cru les victimes. Elle avait plein de gens qui lui disaient « Mais si, ton mari, il a fait ça, il a fait ça. » Et elle a toujours refusé de le croire parce qu'en fait, ça la dérangeait trop. Et parce qu'en fait, ça exigeait d'elle qu'elle change de vie. Et c'était déjà une personne un peu âgée. Et donc, finalement, elle a préféré la solution de refuser de croire quelque chose qui était pourtant évident et avéré que de faire tous ces changements et de faire une révolution dans sa tête. Et de voilà. Et en réfléchissant à cette personne, je me suis dit, mais finalement, collectivement avec le climat, c'est un peu ça qu'on fait, en fait. Y a une vérité qui nous dérange et on essaye de regarder ailleurs.
Vous êtes président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Quel est le rôle de cette association ?
Alors j'ai fini mon mandat de président, mais je l'ai effectivement présidé pendant 3 ans. C'est une association professionnelle, c'est-à-dire que c'est les journalistes qui font ce métier-là, les journalistes scientifiques qui se regroupent pour en fait pouvoir échanger entre eux et du coup possiblement être un peu meilleur, plus cultivé, plus voilà, s'échanger les trucs et des conseils. Et c'est aussi pour défendre notre accès à l'information, parce que parfois il y a des endroits où on ne laisse pas entrer les journalistes, où il y a des endroits où on refuse de répondre à leurs questions. Et l'association aide à résoudre ces problèmes-là. Un exemple que je peux vous donner, c'est on a eu un souci avec les hôpitaux de Paris qui ne voulaient pas que les journalistes viennent dans l'hôpital faire des reportages, et en particulier, ils ne voulaient pas recevoir les photographes. Et ça, c'est en partie pour de bonnes raisons, parce qu'ils protégeaient l'intimité des malades, dans une certaine mesure des soignants. Mais nous, on pense que c'est important que les journalistes rentrent dans les hôpitaux pour qu'ils puissent raconter comment ça se passe, et y compris le raconter par la photo, parce que la photo raconte des choses que que le texte ne peut pas raconter, des atmosphères, des expressions, des tristesses, des joies, enfin, voilà, de l'intime. Et donc, on a négocié et obtenu que il pourrait contrôler les photos, que les photographes se débrouilleraient pour que les personnes vulnérables ne soient pas identifiables. Bon, voilà. Dans ce genre de choses, on a besoin de négocier et on trouve des terrains d'entente et l'association favorise ça.
Quel message souhaiteriez-vous transmettre au public pour mieux comprendre l'urgence climatique ?
J'ai l'impression que le public sait l'urgence climatique. Je pense qu'il y a des gens qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sont dans le déni. Mais je pense que la grande majorité du public sait l'urgence climatique, mais un sentiment d'impuissance et a l'impression de la subir un peu comme une espèce de catastrophe quasiment naturelle. Et moi, ce que je voudrais faire passer comme message, en fait, c'est qu'il n'est pas trop tard, c'est qu'on peut encore faire plein de choses. C'est que, bien sûr, on n'échappera pas à un certain réchauffement, mais que par la politique, par l'associatif, par, dans une moindre mesure, nos actions individuelles, il est encore temps d'agir sur le climat et qu'on peut vraiment faire une différence, tous, chacun, et encore plus collectivement.
L'IA va-t-elle menacer le travail du journalisme ? Comment vous voyez l'avenir du journalisme ?
Alors récemment, je discutais avec une collègue qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle m'a dit « Les journalistes ne seront pas remplacés par l'IA, ils seront remplacés par d'autres journalistes qui savent utiliser l'IA. » C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on accepte que c'est un outil qui va devenir de plus en plus présent dans notre métier. Mais que probablement, ce n'est pas un outil qui va tuer le métier. On verra. Moi, je me méfie des prédictions, mais je pense que c'est une bonne direction pour travailler. Je pense aussi qu'il y a quelque chose avec l'IA que les gens ne mesurent pas, c'est que ça ne restera pas gratuit. C'est-à-dire que là, on est tous sur l'IA, on lui pose des questions parfois parfaitement inutiles qui nous demanderaient 2 minutes à résoudre autrement, parce que c'est gratuit. Et en fait, vous savez, les industriels de l'IA, ils font comme les industriels de la cigarette, ils commencent par distribuer, puis quand tout le monde est devenu addict, après ils disent « bon, bah, maintenant on va monter le prix ». Et donc c'est ça qui va se passer avec l'IA. L'IA consomme beaucoup d'énergie, et on est dans un monde où l'énergie est en train de devenir de plus en plus chère, et particulièrement ces dernières semaines, mais de façon générale. Et donc, ce ne sera pas possible de demander éternellement à l'IA n'importe quoi pendant des heures. Il y a un moment où on va nous faire payer tant la minute d'IA. Et je ne sais pas combien sera ce temps, mais il existera. Et à ce moment-là, il faudra se poser la question de qu'est-ce que je fais avec l'IA et qu'est-ce que je fais sans ? Et comment est-ce que j'économise mon temps d'IA ? Et voilà. Et ça, ce sera des questions particulièrement importantes pour les journalistes. Moi, j'utilise l'IA. Je vérifie tout ce qu'elle me dit et je cherche d'autres sources, évidemment. Mais je reconnais que c'est un outil très puissant. Quand Google est sorti, on a tous utilisé Google. Et c'était déjà se mettre dans la main de la big tech américaine et... Donc là, c'est un peu la suite de cette même trajectoire. Mais bon, en tout cas, je ne pense pas que ça va tuer le métier de journaliste. Non, ça va le bouleverser, mais ça ne le tuera pas.
Okay. Et pour finir sur une note plus légère, si le Vercors était un son, quel serait-il ?
C'est une très bonne question. Pour moi, ce serait le vent dans les arbres, avec un arrière-plan de chant d'oiseaux. Pour moi, c'est vraiment au printemps, quand on se promène dans le Vercors et que vous avez les oiseaux qui sont arrivés, c'est comme si la forêt chantait Et c'est vraiment... moi, c'est des grandes émotions pour moi. Et j'espère que je pourrai continuer à les vivre et que d'autres les partageront pendant longtemps. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de bruit de motos et d'avions qui cacheront ces sons-là.
Merci beaucoup de nous avoir laissé vous interroger. C'était très intéressant, très instructif pour nous. Et donc, on vous remercie.
Merci pour vos questions et de vous intéresser au Vercors. Il le mérite.
Oh, l'impro que je viens de te taper, là.